Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+, à Épinal. À Épinal.
أنتم مع إذاعة الشرق. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام إلى أن موعد أذان العشاء لهذا اليوم في مدينة باريس وضواحيها يحين عند الساعة 10:10، وعلى المقيمين خارج العاصمة مراعاة فروق التوقيت.
Le journal Loïc Barrière. Le Hezbollah affirme avoir lancé une opération contre des soldats israéliens qui avaient franchi la frontière libanaise, un développement qui intervient alors que les pays occidentaux appellent Israël à ne pas riposter à l'attaque iranienne de ce week-end. Israël poursuit ses bombardements de la bande de Gaza. 68 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures. Paris a accueilli une conférence humanitaire sur le Soudan, ravagé par une guerre civile depuis un an. L'établissement français du sang lance une campagne de dons pour renouveler les stocks. Nous écouterons Hervé Menrad, directeur de la collecte et de la production de l'EFS. Tête de liste aux élections européennes, le président du PRG, Guillaume Lacroix, propose que les demandeurs d'asile trouvent un lieu pour déposer leur dossier dans toutes les ambassades des pays européens. Après l'attaque iranienne contre Israël, le Hezbollah affirme avoir visé ce matin des soldats israéliens qui avaient franchi la frontière avec le Liban. Selon la formation libanaise, cette opération aurait fait des tués et des blessés parmi les soldats israéliens. L'armée israélienne affirme que 4 de ces soldats ont été blessés, mais ne confirme pas qu'ils avaient franchi la frontière. Les grandes puissances appellent Israël à ne pas lancer de riposte après les tirs de drones iraniens, une attaque que Téhéran présente comme une opération d'autodéfense après les tirs contre son consulat à Damas. « Nous ne soutenons pas une frappe en représailles », a dit ce lundi le chef de la diplomatie britannique, David Cameron. « Nous ne voulons pas d'escalade, nous ne voulons pas d'une guerre étendue avec l'Iran », a déclaré pour sa part John Kirby, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Le président Emmanuel Macron a lui appelé à éviter un embrasement régional. Pendant ce temps, l'armée israélienne a continué de bombarder la bande de Gaza. Ces dernières 24 heures, 68 morts ont été comptabilisés par le ministère de la Santé du Hamas. L'invité de Pluriel ce lundi à 19h23 est Guillaume Lacroix, tête de liste d'Europe Territoire Écologie aux élections européennes, président du Parti radical de gauche. Il réagit notamment au vote du pacte asile et immigration au Parlement européen.
Et c'est un sujet qui est aujourd'hui central. Aujourd'hui, nous sommes aux prises avec deux réalités. D'abord, l'asile. L'asile, c'est un droit imprescriptible et ça doit le rester en Europe. Toutes celles et ceux qui sont soumis à des oppressions doivent pouvoir trouver refuge dans notre pays. Mais il faut arrêter de les laisser divaguer dans toute l'Europe, passer par des passeurs, risquer leur vie et parfois mourir quand ils ne sont pas morts dans leur pays d'origine, mourir en chemin pour nous rejoindre. Ça, nous nous proposons par exemple que les demandeurs d'asile trouvent dans toutes les ambassades et dans tous les consulats des pays européens, de leur pays d'origine ou des pays voisins, un lieu pour être accueillis, faire leur demande d'asile et ensuite être acheminés en sécurité sur le sol européen. Sur l'immigration, c'est un autre sujet. Sur l'immigration, on a besoin à la fois d'immigration aujourd'hui, et nous le disons, il faut arrêter de se cacher derrière notre petit doigt, il nous faut une immigration choisie, et il nous faut aussi une immigration qui permette, pardon de le dire aussi clairement, que dans les rues de Paris ou de Bordeaux, la femme afghane qu'on a accueillie comme réfugiée ne croise pas un héritier des talibans. Et pour ça, il nous faut clairement une politique de l'immigration européenne qui pourchasse toutes celles et ceux qui profitent de l'immigration pour venir semer le désordre et la violence.
Guillaume Lacroix, sur votre compte Twitter, vous avez écrit qu'il n'y a pas à choisir entre lutte contre le racisme et lutte contre tous les fanatismes religieux et extrémismes politiques. Vous dites que le PRG n'a pas l'humanisme et la fraternité à géométrie variable. C'est la laïcité pour vous qui peut nous protéger à la fois de la xénophobie et des extrémismes de toutes sortes ?
Moi, je crois que la laïcité est le bouclier de toutes les violences dans notre pays, parce que la laïcité, c'est la liberté. La liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire et donc d'être protégé dans ses croyances ou non-croyances, mais c'est aussi la fermeté par rapport à toutes celles et ceux qui font de la croyance un levier de violence, de contrainte. Toute l'actualité de ces derniers jours et de ces dernières semaines est terriblement tournée et orientée sur le fait qu'aujourd'hui, au nom d'une religion, on impose, on frappe, on tue, c'est insupportable. Nous sommes une démocratie, nous sommes dans un pays de liberté, de lumière, nous sommes dans un pays où la jeunesse a le droit de vivre librement, sans contrainte, et sans contrainte à la fois de l'État, mais sans contrainte aussi des dogmes et des religions. Oui, moi, je n'ai pas l'humanisme à géométrie variable. Je me battrai toujours contre le racisme et les discriminations avec la même force que je me battrai toujours contre celles et ceux qui veulent imposer une vision de la société à tous les autres.
Mais comment allez-vous expliquer ce qu'est la laïcité aux représentants des autres pays européens, puisque la France est l'un des seuls pays à proposer cette laïcité ?
Et moi, je demande déjà que les Européens la respectent. Je leur demande pas de s'en emparer immédiatement, je demande déjà que les Européens et que l'Union Européenne ne soient pas l'ennemi de ce modèle-là. Ensuite, vous savez, en politique, je vous l'ai dit, une idée et une bonne idée, c'est une idée que tout le monde pense avoir eue. Moi, je suis pas là pour être celui qui impose une conception aux autres. Je suis là pour la promouvoir. Je serai là pour en faire la pédagogie aussi. Et puis, franchement, quand je vois la façon dont le modèle anglo-saxon, qui nous a été vendu comme un vecteur d'intégration, est aujourd'hui en train de faire la démonstration contraire, je pense honnêtement que les faits, l'actualité, la réalité, et pas seulement en France, vont nous aider à expliquer que la laïcité, c'est certainement la valeur cardinale pour que nous puissions toutes et tous vivre ensemble et que nous nous sentions tous protégés dans ce que nous sommes.
Guillaume Lacroix, tête de liste d'Europe Territoire Écologie aux élections européennes, président du Parti Radical de Gauche, il est l'invité de Pluriel ce lundi à 19h et 23h. Une attaque au couteau a eu lieu dans une église de Sydney, deux jours après celle qui a fait 6 morts dans un supermarché de cette ville d'Australie. L'attaque a eu lieu dans l'église assyrienne du Bon Berger où se déroulait une messe. Lundi après-midi, les médias australiens ont parlé de 4 blessés dont un évêque. L'agresseur a été arrêté. Une conférence humanitaire sur le Soudan a été organisée ce lundi à Paris. Objectif, recueillir plus d'1 milliard d'euros de dons et chercher des solutions pour mettre fin au conflit. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a expliqué qu'il s'agissait de briser le silence autour de ce conflit qui a éclaté il y a 1 an, une guerre qui a fait des milliers de morts et provoqué une catastrophe humanitaire. À 100 jours des Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant sur la sécurité de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, mais le président français a évoqué pour la première fois des plans B et C en cas de menace terroriste. Une cérémonie pourrait avoir lieu au Trocadéro seulement, voire au Stade de France. Donner, c'est sauver des vies. L'établissement français du sang lance une campagne pour inciter à devenir donateur. Pour en parler, nous écoutons Hervé Menrad, directeur de la collecte et de la production pour l'établissement français du sang.
Donner son sang est un geste important puisque c'est un produit qui est utile dans un nombre important de situations pour lesquelles il n'existe pas de produit de substitution. Donc il est nécessaire d'avoir des donneurs en continu puisque ce sont des produits qui ont aussi une durée de vie courte. Avec un don du sang, on va faire une poche de globules rouges qui a une durée de vie de 42 jours. Et on fait des plaquettes également qui ont une durée de vie de 7 jours. Donc on a besoin d'avoir constamment un flux de donneurs pour permettre de maintenir des réserves de sang à bon niveau pour répondre aux besoins des établissements de santé. Voilà, on considère qu'on a besoin de 10 000 dons par jour tout au long de l'année pour répondre aux besoins des établissements de santé.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, concrètement, comment donner son sang? Où faut-il se rendre? Et est-ce que tout le monde peut le faire?
Alors, pour donner son sang, on accueille les donneurs sur un peu plus de 100 maisons du don, qui sont ce qu'on appelle les maisons du don. Ce sont nos sites fixes qui sont toujours au même endroit, ouverts toute l'année. Et on organise partout en en France environ une centaine de collectes mobiles. Donc là, on se déplace dans des salles, dans des entreprises pour accueillir les donneurs au plus près de là où ils sont. Pour les trouver, il faut se rendre sur le site internet de l'établissement français du sang. Il y a aussi l'application mobile Don de sang. Vous pouvez trouver toutes les collectes mobiles et tous les sites fixes. Vous pouvez cliquer sur chacun de ces endroits et vous pouvez voir l'ensemble des créneaux de rendez-vous disponibles où vous pouvez vous inscrire pour venir donner votre sang. Pour donner son sang, en fait, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Voilà les règles générales et qui permettent d'être éligible au don du sang.
Y a-t-il des types de donneurs que vous recherchez en particulier lors de collectes de dons de sang ?
Alors, dans la période actuelle, là où on fait un communiqué de presse, où on a besoin de donneurs, on a besoin de tout le monde, de tous les groupes. Mais par contre, il y a des donneurs qui ont un groupe particulier, qui sont les groupes O négatif. Le groupe O négatif est le groupe qu'on appelle de manière un peu habituelle le groupe universel qui peut être reçu par tout le monde. Quand vous êtes dans une situation d'urgence avec un besoin de transfusion immédiat, le O négatif peut être donné à tout le monde, donc c'est le produit de l'urgence. Ce qui fait qu'il est consommé de manière plus importante que la part qu'il représente dans la population. Donc du coup, on a besoin de plus de O négatif que la part présente dans la population. Donc on mobilise un peu plus les donneurs O négatifs pour pouvoir maintenir ce stock, cette réserve de poches de sang O négatif à un niveau un petit peu supérieur.
À ce stade de l'année, peut-on dresser un premier bilan concernant les dons de sang pour l'année 2024 ? Constatez-vous une baisse du nombre de donneurs ou au contraire un gain d'intérêt ?
Alors on est qu'au mois d'avril, mais on a constaté des situations différentes. On a eu un début d'année sur janvier-février où on a eu une bonne participation sur nos collectes avec des donneurs qui étaient très présents. Et depuis le mois de mars, on a une forte diminution de la fréquentation. Et du coup, ça nous amène à des réserves qui sont plus faibles que prévu puisqu'on voulait les constituer pour la période du mois de mai où on a un peu plus de mal à collecter dans ces périodes avec beaucoup de jours fériés et des ponts, puisque les donneurs, les Français se déplacent, sont moins disponibles. Donc en amont, au mois d'avril, on voulait monter nos réserves, ce qu'on a beaucoup de mal à faire actuellement. C'est pour ça qu'on communique sur la nécessité de venir donner dès à présent, puisqu'il faut qu'on puisse rentrer dans le mois de mai avec des réserves bien constituées pour servir les établissements de santé qui reçoivent des patients tout le temps, jours fériés ou pas jours fériés.
Après avoir effectué un don de sang, à quoi servira principalement le sang collecté ?
Alors, le sang collecté va permettre de préparer trois produits, une poche de globules rouges, des plaquettes et du plasma. L'utilisation des poches de sang et des plaquettes est destinée à différents types de maladies, donc comme je le disais, pour lesquelles il n'y a pas de produits de substitution. La plus grosse partie des produits issus du don du sang sont utilisés dans les maladies du sang et dans des cancers, où les traitements entraînent une baisse de la qualité du sang. On a les interventions chirurgicales ensuite qui peuvent entraîner des hémorragies et les victimes d'accidents, notamment accidents de la route, tous les accidents très traumatisants qui entraînent beaucoup de saignements. Et puis après, en troisième position, on va avoir des transfusions d'ordre médical pour toutes les maladies hors pathologie cancéreuse qui nécessitent des transfusions. Et puis aussi, par exemple, des complications lors d'accouchement qui peuvent entraîner accidentellement des hémorragies importantes, où là, on va aussi avoir besoin de transfusions.
Hervé Menrad, directeur de la collecte et de la production pour l'établissement français du sang, au micro d'Iliès Jamlaoui. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré ce lundi. Elle vise les personnes de plus de 80 ans et les malades immunodéprimés, quel que soit leur âge. La bibliothèque de Radio Orient a reçu ce week-end Suzanne Elkins, écrivaine palestinienne, pour « Deux glaces et deux feux », un roman publié aux éditions Barzac, un roman sur la maladie et l'hôpital, mais aussi sur l'identité, extrait de cette émission.
Enfin, c'est pas mon premier roman, il est très différent des précédents, voilà. Il est né par un vécu à l'hôpital de moi-même. Sauf qu'il faut pas se tromper, c'est-à-dire ce que je raconte de cette dame avec une maladie très grave, bon, ce n'est pas tout à fait moi. Il y a des choses que je tire du réel, mais je brode beaucoup. Donc c'est dans le sens où c'est un roman. J'ai essayé d'explorer enfin beaucoup de points de vue, le milieu hospitalier, les équipes de l'hôpital, et puis ce sentiment de cette femme qui sait qu'elle a une maladie tragique, mais qui ne montre peut-être pas sa résistance à cette maladie. On pourrait croire par moments qu'elle est soumise, enfin qu'elle se laisse aller à la fatalité, mais au fond d'elle-même, c'est une grande résistante et combattante. Elle ne le montre pas assez, peut-être.
Alors justement, qui est ce personnage principal, Mathilde Ben? Elle est d'origine palestinienne. Cette femme s'appelle aussi à d'autres moments Hind.
Oui, ben en fait, c'est une femme qui n'acceptait pas ce qu'elle était elle-même. Donc elle voulait être un autre personnage. Son personnage d'origine, en fait, je le dévoile pas tout à fait au début du livre. Donc elle veut se faire appeler Mathilde dans une société d'accueil dans laquelle elle vit, qui n'est pas sa société d'origine, pour ressembler aux autres. Voilà, c'est pour être plus conformiste. Mais elle n'y arrive pas tout à fait. Elle échoue et c'est malgré elle que ses origines la rattrapent. Voilà, vous voyez, avec la pousse de teint sur ses cheveux, bon, ça, c'est vraiment de la fiction. Mais voilà, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est assez perturbée. Elle ne sait pas qui elle est, qui elle veut être. Et puis, petit à petit, les choses rentrent enfin, dans un certain ordre, si je peux dire.
Quelle est la place de la Palestine dans sa vie, puisque les références au pays natal, au pays perdu, sont nombreuses dans le roman?
Oui, tout à fait. C'est vrai. En fait, elle voulait un effacement dans ce roman de ses origines, de sa Palestine natale, qui lui pesait beaucoup, beaucoup trop. Donc, elle a voulu substituer ses origines, enfin, à quelqu'un d'autre, à une, disons, un pays normal, qui vit normalement avec des gens normaux, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de population écrasée, où il n'y a pas d'oppression. Mais elle ne réussit pas, parce qu'au début, elle n'arrivait pas à faire cette jonction-là entre ses origines et son pays d'accueil, avec l'exil aussi, notamment. Donc, dans un sens, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle devait subir une greffe de moelle osseuse, et elle compare un peu l'exil à une sorte de greffe qui prend ou qui ne prend pas. Je n'ai pas tranché, mais en même temps, il y a aussi l'évocation des glaciers, parce que c'est une femme qui est originaire des pays du Sud, où on n'est pas censé avoir des glaciers. Elle choisit l'opposé de ses origines. Elle va dans les glaciers et elle est mue par ces glaciers qui sont devenus un peu son moteur.
Suzanne Elkins, écrivaine palestinienne, autrice de De glace et de feu aux éditions Barzac. Elle était l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient, émission que vous pouvez écouter en podcast sur radioorient.com. Dans quelques instants, le journal en langue arabe. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.
Publicité. Renault.
Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement allant de 3,3 à 22 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master répondent à tous vos besoins. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires Renault en version thermique et e-tech électrique, prête à partir. Pendant les jours Pro Plus du 2 au 18 avril, profitez de 3 mois de loyer différé.
Volume selon version, selon stock disponible. Location longue durée permettant au locataire de choisir 1, 2 ou 3 mois à 0€ en début de contrat. Si accordiaque location. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Radio Orient.
We'll be right back.
حل الهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وانا عيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق يدوبنا حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق يدوبنا بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب Thank you. بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صدفه بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صدفه بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه في نظرة شوفي تنهيدة في دنيا كلها جديدة في نظرة شوفي تنهيدة في دنيا كلها جديدة ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة وشيء في الليل بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر
Radio Orient en DAB+ à Beaune.
أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق معكم مازن حمود. بينما تواصل القوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، موقع المزيد من القتلى والدمار والنزوح، حيث اقترب عدد الشهداء من 34,000. قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن قرار تجنيد لواءين من قوات الاحتياط يهدف إلى إمكانية العمل في رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ إليه مئات الألاف من الشمال. ويوم الأحد قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب إنه بناء على تقييم الوضع سيجند الجيش خلال الأيام المقبلة حوالي لواءين من جنود الاحتياط من أجل القيام بالمهام العملياتية في منطقة غزة. وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الأحد تأجيل الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك غدات هجوم انتقامي إيراني غير مسبوق على إسرائيل مساء السبت. وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية عدة من تداعيات الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح جنوب غزة والحدودية مع مصر، في ظل وجود نحو 1,400,000 نازح في المدينة دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى. قتل فلسطيني وأصيب اثنان يوم الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع شهيد وإصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومحاصرة بناية سكنية، فيما سمعت أصوات الرصاص بحسب شهود عيان. وقال شهود إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء الغربية للمدينة واندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وأشاروا إلى أن جيش يحاصر عمارة سكنية في حي المريج. ولاحقا أفاد شهود بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من المدينة بعد اعتقال فلسطيني على الأقل. هذا واقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين أيضا مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة واعتقل فلسطينيين وفق شهود عيان. وقال شهود إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدات بمحافظة طول كرم شمالا واعتقلت 9 مواطنين على الأقل، إلى جانب اقتحام بلدات برقة وكفر نعمة والمزرعة الشرقية بمحافظة رام الله، ودهمت منازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين وفتشت المنازل. كما اقتحمت بلدات بمحافظتي بيت لحم والخليل ودهمت منازل فلسطينية. وتزامن ذلك مع تصعيد المستوطنين الإسرائيليين لاقتحاماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين في بلدات بالضفة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص وأحراق عشرات المنازل والسيارات منذ يوم الجمعة. أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إصابة 4 من جنوده بانفجار مجهول المصدر في المنطقة الحدودية شمالي البلاد وسط تواصل المواجهات المسلحة مع مقاتلي حزب الله اللبناني. وأصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية في المنطقة الحدودية شمال البلاد ليلة الأحد الاثنين بحسب الجيش. كما أصيب جنديان إسرائيليان بجروح متوسطة وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة جراء انفجار مجهول المصدر. وقال الجيش الإسرائيلي يجري التحقيق في الحادث وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. من الجانب اللبناني أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة جنوب لبنان وأصيب 9 أشخاص بجروح بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل غارة مستهدفا منزلا في بلدة صديقين، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعشرات المنازل المحيطة. وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة أوقعت 9 إصابات متوسطة وطفيفة نقلوا إلى مستشفيات مدينة صور. كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وأطلق الجيش قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية، واستمر الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الناقورة وعلم الشعب. مع مرور عام على الحرب في السودان بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، نظمت باريس الاثنين مؤتمرا حول السودان أثار استنكارا لدى الخارجية السودانية. ويبحث المؤتمر شقا سياسيا لحل الأزمة من جهة، والجانب الإنساني لتعبئة التبرعات وتقديم معونة للسودان من جهة ثانية. هذا المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا وتشارك في رئاسته ألمانيا والاتحاد الأوروبي، الهدف منه بحسب الخارجية الفرنسية إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال، فيجب ألا يسمح بأن يصبح السودان أزمة منسية، يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لموان. وشددت الخارجية الفرنسية على أن الاهتمام الدولي ينصب على قطاع غزة وأوكرانيا أكثر من السودان، مشيرة إلى أن الأزمة السودانية إنسانية ولكن جيوسياسية أيضا، وقالت إن خطر تفكك السودان وزعزعة استقرار القرن الإفريقي بكامله كبير جدا. وأوضحت خارجية فرنسا أن تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة في العام الماضي لم يبلغ سوى النصف، هذا العام لم تتخطى نسبة التمويل 5%، مؤكدة أنها لا تتوقع سد هذا العجز خلال مؤتمر باريس، لكن تأمل في أن يستيقظ المجتمع الدولي. وسيسعى مؤتمر المانحين في باريس إلى معالجة تضاعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة والنقص الذي يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار. وعلى المستوى السياسي من المقرر أن تعقد اجتماعات سياسية تشارك فيها دول الجوار مثل تشاد، ليبيا، كينيا، جيبوتي وكذلك جنوب السودان ومصر وأثيوبيا، إضافة إلى السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج. كما ستحضر المؤتمر منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد، إضافة إلى وكالات للأمم المتحدة، ويأمل المجتمعون في الاتفاق على إعلان مبادئ وإجراء تقييم لمختلف مبادرات إحلال السلام في السودان وفق الخارجية الفرنسية. لكن السودان غير مشارك في المؤتمر، فقبل 3 أيام من انعقاد هذا المؤتمر أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أعربت فيه عن دهشتها واستنكارها لأن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان، الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها ودون مشاركتها، رغم أنها هي حصريا التي تمثل البلاد دوليا وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها. وفي بيان لها أصدرته يوم الجمعة الماضي، اعتبرت الخارجية السودانية هذه الخطوة الفرنسية مسلكا يمثل استخفافا بالغا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، مضيفة أن الاختباء وراء زريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون طرفي نزاع لتبرير تجاهل السودان حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض ويمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. واعتبر بيان خارجية السودان المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة وميليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من الجهة الأخرى من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي. ورأت الخارجية السودانية في بيانها أن هذا المسلك يشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في إفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية، لأنها ستكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول المتضررة وحكوماتها الشرعية بدعوى الحياد، مشيرة إلى أن رعاة الميليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون في هذا الاجتماع. وأدت الحرب على مدى عام إلى مقتل قرابة 14,000 شخص ونزوح ولجوء حوالي 8.5 مليون، فيما عبر قرابة 2 مليونين إلى دول الجوار مثل مصر، تشاد، إثيوبيا، جنوب السودان، ليبيا وإفريقيا الوسطى وفق الأمم المتحدة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين أن بلاده ستبذل ما في وسعها للحيلولة دون التصعيد في الشرق الأوسط عقب رد إيران على إسرائيل على قصف قنصلية طهران في دمشق. وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات تلفزيونية إن باريس ستقوم بكل ما في وسعها لتفادي التصعيد، مؤكدا أن طائرات فرنسية شاركت في اعتراض بعض الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران نحو إسرائيل في أجواء الأردن. من جهته دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاثنين إسرائيل على عدم الرد بعد هجوم شنته إيران بطائرات مسيرة وصواريخ، وقال إن خطوة طهران فشلت بالكامل تقريبا وإن التركيز يجب أن ينصب على التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال كاميرون لقد تلقت إيران هزيمة مزدوجة، الهجوم كان فاشلا بالكامل تقريبا، وأظهروا للعالم أنهم أصحاب التأثير الشرير في المنطقة. لذلك يقول وزير الخارجية البريطاني نأمل في ألا يكون هناك رد انتقامي من جهة إسرائيل، مؤكدا أنه سيكون هناك المزيد من العقوبات على إيران. إلى جانب ذلك، الخارجية الإيرانية اعتبرت أن الرد جاء دفاعا عن النفس. السعودية تباحثت مع العراق في التطورات، والأردن استدعى سفير طهران، ومجلس الأمن الدولي عقد جلسة بناء على طلب من إسرائيل. تفاصيل هذه التطورات مع روجي خوري.
تصدرت الإدانات للرد الإيراني على إسرائيل والدعوات للتهدئة ومنع التصعيد بالمنطقة كلمات الدول الأعضاء بجلسة بدأها مجلس الأمن مساء الأحد بطلب من إسرائيل لبحث الهجوم الإيراني عليها، حيث أدانت ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودوورد أدانت الهجوم الإيراني على إسرائيل وعدته متهورا لأنه هدد حياة آلاف المدنيين كما قالت. كما أدانت ممثلة فرنسا في الأمم المتحدة الهجوم الإيراني ووصفته بغير المسبوق. من جانبه أهاب ممثل اليابان في الأمم المتحدة بجميع الأطراف إدانة التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالشرق الأوسط. كذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التهدئة وقال حان الوقت لتهدئة التوتر وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة الهاوية بالشرق الأوسط. بدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن رد طهران العسكري على إسرائيل كان ضروريا ودفاعا عن النفس. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران لمتحدث الوزارة قال كنعاني خطوتنا ضد إسرائيل كانت دفاعا عن النفس وردا على اعتداءات الكيان المحتل، وأضاف لن نريد مزيدا من التوتر في المنطقة، خطوتنا كانت ضرورية ومتناسبة نتيجة السلوك غير المسؤول لإسرائيل والغرب. من جهتها استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإيراني في عمان وطلبت من بلاده الكف عن التشكيك في مواقف الأردن من القضية الفلسطينية بعد إعلان المملكة اعتراض أجسام طائرة أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل. وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي في مقابلة تلفزيونية إن الوزارة استدعت السفير الإيراني وأرسلت له رسالة واضحة بضرورة أن تتوقف هذه الإساءات للأردن ويتوقف هذا التشكيك بمواقف الأردن. وأضاف للأسف كانت هناك تصريحات مسيئة للأردن من قبل وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية. وأوضح الصفدي أن مشكلة إيران مع إسرائيل وليست مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزايدة على ما يقوم به الأردن وما يقدمه الأردن وما قدمه تاريخيا من أجل فلسطين. وقال أيضا نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الإقليم بما فيها إيران، وحتى نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب احترام الآخر ويجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية ويجب عدم الإساءة للأردن، لأننا لن نقبل لأي عنصر إن كان أن يسيء للأردن، قال وزير الخارجية الأردني. وأكد أنه إذا كان هذا الخطر قادما من إسرائيل فسيقوم الأردن بالإجراء نفسه الذي قام به، وهذا موقف نؤكده بشكل واضح وصريح، ولن نسمح لأي عنصر كان بأن يعرض أمن الأردن والأردنيين للخطر. وأكد الأردن الأحد أنه اعترض أجساما طائرة خرقت أجوائه ليلة السبت الأحد تزامنا مع الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي شنته إيران على إسرائيل، متعهدا التصدي لأي تهديد من أي جهة كانت. هذا وبحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحث هاتفيا أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار. وجرى التأكيد خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس مجلس الوزراء العراقي على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد. وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت في بيان عن بالغ قلق المملكة جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته داعية الأطراف كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. وأكدت الخارجية السعودية على موقف بلادها الداعي إلى ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة البالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها حسب ما وصفها البيان.
بدأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يوم الاثنين زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لم يعلن عنها مسبقا وتستمر يومين، ولم يعرف ما إذا كانت الزيارة مرتبطة بالرد الإيراني على إسرائيل. وقام الملك عبد الله الثاني باستقبال رئيس العراق لدى وصوله مطار ماركا، وكان في الاستقبال مسؤولون مدنيون وعسكريون وأجريت له مراسم استقبال رسمية. صدر مرسوم أميري في الكويت يوم الاثنين بتعيين أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا للحكومة. جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية بعد نحو أسبوع من قبول استقالة الحكومة السابقة عقب إجراء الانتخابات النيابية. والحكومة المستقيلة كان يقودها الشيخ محمد صباح السالم الصباح. وقالت الوكالة إنه صدر عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمر بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيسا للمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
Changez d'horizon et écoutez Radio Orient en DAB+ à Cholet.
Chez Le Bon Coin, on sait que voiture d'occasion est synonyme de nouveau départ pour les vendeurs.
Je t'aimerais toujours.
Comme pour les acheteurs. Alors on fait tout pour que ce nouveau départ soit un très bon départ. Avec notre pack Sérénité, profitez du paiement sécurisé et des mêmes garanties que chez un professionnel avec la garantie panne mécanique. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Conditions, limites, exclusions applicables et coordonnées de l'assureur disponibles sur leboncoin.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Brest. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Il est 23h, vous êtes sur Radio Orient, le Flash.
Bonsoir à tous. Le